Jacques Munier, en vous souhaitant le meilleur, tout comme à nos auditeurs, je vous accueille donc en ce 1er janvier pour votre journal des idées. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara, bonjour à tous. C'est une très belle et heureuse année à vous également.
Merci Jacques. Et justement, le nouvel an, nous en reparlons avec vous puisque c'est un rite de passage. Il est célébré partout dans le monde sous des formes diverses, mais comparables, avec une signification identique, le renouveau.
Et oui Clara, tous les jours se ressemblent au fil du temps, mais le jour de l'an est unique. Ne serait-ce que par le changement de chiffre de l'année. Le moment a pu varier au cours de l'histoire en fonction des calendriers. Aujourd'hui encore, les peuples de l'ère culturelle persane, iraniens et kurdes notamment, le fêtent en mars, au début du printemps. Mais il a conservé ce sens de recommencement depuis la plus haute antiquité, où il était lié notamment au retour du soleil. Les anciens babyloniens le célébraient par des festivités et rites de purification durant une dizaine de jours. Et pour les Égyptiens, l'événement majeur de la crue annuelle du Nil marquait, dès les premiers signes de la montée des eaux, le début de la fête au cours de laquelle on faisait des offrandes aux morts et aux dieux, et notamment à Ré, le dieu solaire dont on célébrait à cette occasion l'anniversaire. Si dans la Rome antique, Romulus fait commencer l'année le 1er mars, César fait adopter le 1er janvier du nom du dieu Janus, le protecteur des portes et portiques. En latin, Janus signifie portail ou découverte, et le dieu a deux visages, l'un tourné vers l'avant et l'autre vers l'arrière. C'est là en effet tout le sens et l'effet de seuil du réveillon. À Rome, le jour de l'an, les portes des temples sont ouvertes, on s'offre des cadeaux et on échange des vœux sous les auspices de Janus, comme le rappelle Ovide dans les Fastes. Pourquoi prononçons-nous des paroles joyeuses à tes calendes et pourquoi faisons-nous cet échange de vœux? Réponse, les commencements comportent des présages. Les temples des dieux sont ouverts de même que leurs oreilles. Nulle langue ne formule en vain des prières. Les paroles ont leur poids. Et c'est bien là l'autre signification universelle du jour de l'an. Avec le renouveau, nos formules votives prennent une importance inédite, qu'elles soient adressées à nos proches ou à nous-mêmes. Un mot sur les Gaulois. Le baiser sous le gui à l'an neuf allait puiser aux plus anciennes ressources druidiques. César, conquérant et envahisseur, mais aussi attentif observateur, le signale dans la guerre des Gaules en insistant sur la solennité exceptionnelle de sa cueillette. Le gui est fort difficile, écrit-il, à trouver. Quand on l'a découvert, les druides vont le chercher avec respect et toujours le sixième jour de la lune, jour si révéré par eux qu'il est le commencement de leur mois, de leurs années, de leurs siècles même, qui ne sont que de 30 ans. En souvenir de cette célébration végétale et rituelle, on prononçait au Moyen-Âge, le jour de l'an, ces paroles propitiatoires, « le blé lève ». Et c'est là un autre aspect du caractère universel du culte du Nouvel An, comme le montre Salvatore D'Onofrio dans son enquête sur la pratique de la germination de grains de blé, d'orge ou de légumineuses à l'approche de la fête. Du Nowruz persan aux Pâques chrétiennes, en passant par le Népal ou la Sardaigne, les pousses émergentes symbolisent le renouveau de la nature autant que celui des natures humaines. Le professeur à l'université de Palerme et membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France souligne dans un livre au titre évocateur, Le matin des dieux, l'élément inaugural commun à ces procédures symboliques mises en place pour marquer périodiquement le passage du temps, lequel n'est jamais neutre, car lorsqu'un cycle se boucle, le risque d'un terme posé à l'existence s'annonce à chaque fois. C'est en réponse à cette menace symbolique que l'anthropologue Antonino Butita, cité par l'auteur, évoque la régénération périodique du temps au moyen de la répétition symbolique de la cosmogonie, la régénération de la nature accompagnée par la purification des péchés. De ce dernier aspect de la célébration de l'an neuf subsiste dans un registre laïque la litanie des bonnes résolution. La dernière livraison de la revue Techniques et Cultures aborde sous différents angles, époques et régions du monde, les pratiques votives quand il s'agit de matérialiser les désirs. Des cadenas d'amour aux ex-voto, en passant par la céramique attique et ses images votives, ou les dépôts d'armes, de rouelles ou de jetons dans les sanctuaires du monde celtique, Les coordinateurs de l'ensemble, Pierre-Olivier Dithmar, Pierre-Antoine Fabre, Thomas Golsen et Caroline Perret, se sont accordés sur une définition propre à faciliter l'approche comparative. L'ex voto est un don, écrivent-ils, un don physique, une puissance supposée agissante en un lieu spécifique et l'expression d'un désir formulé ou assouvi. Ce qu'il renvoie à l'anthropologie du don et le fait apparaître comme une forme de métonymie du dédicant, car ce don transforme l'objet en personne tout en tissant une série de liens invisibles entre les vivants et les morts, entre les amoureux, entre les membres d'une famille. Ces objets votifs fonctionnent alors comme des interfaces engageant sur un mode affectif non seulement des humains entre eux, mais aussi des individus et des fragments du monde.